Radio Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bunia, en Ituri. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. En Ituri, 7 personnes sont mortes cette semaine dans les sites de déplacés de la plaine Savo, au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Selon les responsables du site, c'est suite aux conditions de vie précaires et à la suspension de l'aide humanitaire. Et puis cette visite de réconfort de Mgr Marcel Outembitapa aux détenus de la prison centrale de Kisangani dans la province de la Tchopo. L'archevêque de Kisangani a promis de plaider en faveur de leur cause auprès de la hiérarchie afin que la justice soit rendue dans les meilleurs délais. L'invité de ce journal est le vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale. Prince Yassa fait la restitution du premier forum des médias sur la santé infantile, nutrition et vaccination tenu récemment à Lomé, au Togo. Et tout d'abord, cette information postée sur X, ex-Twitter, par les porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu, le colonel Guillaume Djiké. D'après lui, 7 casquets bleus de la MONUSCO, dont 6 Guatemaltèques et un Indien, ont été grièvement blessés ce samedi par des tirs d'armes de l'armée rwandaise qui ont ciblé la position de la MONUSCO à Sake. C'était lors des affrontements entre les FARDC et les M23 appuyés par l'armée rwandaise. En effet, depuis 5 heures locales, des combats à l'armes lourdes et légères avaient repris autour de Sake, cité située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma. Selon la société civile de Sake, ces rebelles, ces rebelles des M23 et leurs alliés rwandais ont tenté une énième fois de conquérir Sake à partir des collines environnantes. Mais ils ont été repoussés principalement par les Wazalendo, appuyés par l'artillerie des forces armées de la République démocratique du Congo. En Ituri, 7 personnes, dont 3 enfants, sont mortes cette semaine dans le site déplacé de la plaine Savo, dans le groupement anglais au nord de Bunia, dans les territoires des Djougou. Selon le responsable du site, c'est à la suite des conditions de vie précaires et à la suspension de l'aide humanitaire dans ce site qui héberge plus de 21 000 personnes affectées par les atrocités des groupes armés. Les victimes sont composées essentiellement des femmes enceintes ainsi que des personnes de troisième âge. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire demeure précaire dans le site des déplacés de la plaine Savo dans la chefferie de Bayema Badjeri dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales et des nouveaux déplacés qui ont fui les atrocités des groupes armés, dont les groupements Sombusso, Lona Lodzikpa, Dendro, Deja et Gali ne cessent d'affluer dans ces sites. Ils n'ont pas d'abri, de vivres et des médicaments avec comme conséquence la mort de 7 personnes en l'espace d'une semaine, affirme le comité du site. Le dernier cas a été enregistré vendredi où un enfant a rendu l'âme dans ces camps de déplacés. Certains passent nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries et d'autres dans des hangars. Salomon Boudjou, secrétaire du site des déplacés de Savo.
Le grand problème, les abris sont vraiment délabrés, alors il y a aussi le problème des vivres. Il y a aussi les décès communautaires aussi, il y en a. C'est là qui meurt à la maison, mais il y a aussi ceux là qui meurent même à l'hôpital, il y en a. Si les gens qui nous aident à vivre puissent nous aider, ça pourrait être
Ces déplacés demandent au gouvernement de plaider auprès des humanitaires de leur venir en aide, mais aussi d'accélérer le processus de restauration de la paix dans leur milieu d'origine. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Plusieurs familles sont déchirées et affectées par les conflits Tekeyaka dans l'espace Grabandundu et ici à Kinshasa. Révélation hier vendredi à Kinshasa, résultant d'une enquête du service protestant de développement de la diaconie de l'église du Christ au Congo, ECC. Selon le pasteur Brian Parrish, qui a conduit cette étude, les besoins les plus ressentis auprès de ces familles sont liés essentiellement à la subsistance. Il est dit à Paul Matendo.
J'ai rencontré des communautés à Kikwit qui ont été déchirées par ce conflit. Et quand je voyais aussi, même plus proche de chez nous, à Massina, des communautés qui accueillent 200, 300 familles, on voyait les conditions des personnes qui sont là. Des personnes qui sont déplacées sont des personnes qui ont tout laissé derrière eux, qui n'ont plus d'activité économique, qui ont tout laissé, donc pour pouvoir aussi survivre avec leur famille, ont aussi besoin de l'aide. Des besoins en premier lieu pour les familles déplacées. Et leur demande, c'était le moyen de subsistance. Ça peut être de plusieurs façons, mais de pouvoir aussi manger correctement, pour les familles, tout simplement. Par contre, on voyait aussi que les familles demandaient aussi un soutien pour leurs projets économiques. Certains essayent de vendre ici à Kinshasa ou ailleurs.
En bref, aucun grief n'a été retenu contre Jeannette Kabila, l'ex-députée nationale et jumelle de l'ancien président Joseph Kabila. Ainsi nous renseigne l'agence congolaise de presse. En effet, Jeannette Kabila a été interrogée dès 12h à presque 18h par les renseignements militaires de la RDC. 48 heures après, une perquisition opérée dans les installations de la fondation Laurent Désiré Kabila, qu'elle dirige, a déclaré à l'ACP son avocate. Tout s'est bien passé. On a trouvé qu'il n'y avait rien de tout ce qu'on a révélé, de ce qu'on a relevé comme charge contre Madame Jeannette Kabila, a déclaré à l'ACP Maître Adona Kadima. Parce que dans les cas contraires, on ne te relâche pas, on peut te garder si les faits sont graves, a-t-elle ajouté. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autre rendez-vous, a précisé cette avocate. Dans la province de la Tchopo, l'archevêque de Kisangani a effectué hier vendredi une visite de réconfort aux détenus de la prison centrale de Kisangani. Monseigneur Marcel Outembi Tapa dit avoir posé ses gestes en conformité avec les Écritures saintes qui recommandent notamment la proximité et la prière avec ceux qui souffrent. À cette occasion, l'ordinaire du lieu a réalisé les conditions de vie de ces détenus et a promis de plaider en faveur de leur cause auprès de la hiérarchie afin que la justice soit rendue dans les meilleurs délais pour désengorger cette maison carcérale. Des détails avec Jacques Moukonkoli.
À la prison, l'archevêque de Kisangani a conféré avec les directeurs avant de visiter les différentes cellules de cette maison carcérale. Dans chaque pièce, il s'est entretenu avec les chefs communément appelés Capita afin de s'imprégner de leur situation aussi bien sociale que judiciaire. À cet effet, Monseigneur Marcel Outembi a réalisé que beaucoup de besoins se font sentir dans cette maison pénitentiaire et qu'il faille la désengorger. D'une capacité de 500 détenus, la prison centrale de Kisangani héberge aujourd'hui près de 1500 prisonniers. Il a promis de plaider leur cause auprès des autorités compétentes afin de trouver des mécanismes pour l'amélioration de leurs conditions, notamment le désengorgement de cette maison carcérale. Après un moment de prière et de réconfort moral, Monseigneur Marcel Outembi les exhorte à la résilience.
Ils doivent développer une attitude de résilience, de l'espérance que c'est un endroit de passage et que s'ils se comportent convenablement, ils améliorent leur comportement, ils deviennent de plus en plus disciplinés. Il y en a qui peuvent bénéficier de grâce, d'autres peuvent bénéficier de libération conditionnée.
Signalons qu'avant de prendre congé de ses hôtes, l'archevêque métropolitain de Kisangani leur a remis de vivre et non vivre. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Évasion massive la nuit de jeudi dernier à hier vendredi d'une trentaine de détenus du cachot du parquet près des tribunaux de paix du Diofa dans la province d'Ikwilu. La société civile locale estime que cette évasion est due notamment aux mauvaises conditions de détention et à la détention prolongée sans être jugée à cause de la carence des magistrats. Irène Bomaluzolo fait le point.
Parmi ces 33 détenus du cachot du parquet près le tribunal de paix du Diofa qui se sont évadés, on compte une femme. Le président de la société civile locale, Jean-Marie Benz, indique que ces derniers se sont remis à liberté en escaladant les murs après avoir troué les plafonds pour les uns et d'autres sont sortis par la porte centrale, laissant ainsi la cellule complètement vide. Pour cette source, ce sont les conditions carcérales inhumaines ainsi que la détention prolongée sans être jugée à la suite de la carence des magistrats qui ont poussé ces évadés à bout.
Tout ce que nous pouvons reconnaître, tous les nourris, ça pose problème. Les conditions d'accueil dedans, c'est très sale. Vous ne pouvez pas fourrer votre nez là. Quelqu'un qui peut arriver là, il a fait 5, 2 ans, 3 ans, il n'est pas passé devant la chambre de conseil pour reconnaître son sort. Parce qu'il n'y a qu'un seul magistrat au tribunal.
Pour sa part, Maître Alain Kamanda, un des acteurs des droits humains, redoute la recrudescence de l'insécurité à Idjofa après cette évasion. Précisons que les policiers de garde sont aussi portés disparus avec son arme. Et ces évadés ont battu un agent de police judiciaire qui a tenté de stopper l'un des leurs. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les professionnels de santé et autres agents administratifs réclament la bancarisation de leurs salaires et primes. Ils se sont exprimés ainsi à l'issue d'une marche pacifique organisée vendredi à Bukavu. Pour ces professionnels de santé, leur secteur doit subir un nettoyage profond afin de faire bénéficier les agents actifs à la place des fictifs qui y sont d'ailleurs appréhendés. Écoutez à ces propos Pascal Purutu Mugugu, président du syndicat des professionnels de santé au sud Kivu, dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamezoua Kabedi.
Notre revendication, c'est la bancarisation de nos primes et salaires. Et pour sécuriser les salaires des fonctionnaires de l'État, le gouvernement a opté à la bancarisation de tous les fonctionnaires. Et cela s'est fait partout ailleurs, sauf le secteur de la santé dans la province du Sud-Kivu. Le gouvernement avait décidé l'augmentation de la prime à tous les fonctionnaires. Et pour le Sud-Kivu, il n'y a que 2 mois seulement qui ont été payés. Aussi, il y a nos collègues mécanisés en 2023, après une vingtaine, trentaine d'années pour certains sans être payés. Curieusement, ceux-là qui étaient orientés à la BOA n'ont rien reçu jusqu'à ce jour. Alors que pour les autres banques, par exemple à la TMB, Equity, ils sont payés mensuellement. Nous insistons beaucoup pour la bancarisation et être payés le mois de janvier et février 2024 à la banque. Procéder aussi au remplacement des fictifs parce que notre fichier compte plus de 2000 fictifs. Nous voulons à ce que ces fictifs soient remplacés par le personnel non payé en fonction.
Retour au Sud Kivu où la Ligue des consommateurs de services au Congo, Kinshasa Likoski, appelle au respect des droits des consommateurs de l'énergie au quotidien. Aussi l'accès pour tous de manière durable à l'énergie propre. Ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des consommateurs de l'énergie au quotidien, célébrée le 15 mars de chaque année. Mise au cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services en RDC, au micro d'Emmanuel Elamezoua Kabedi.
L'analyse du contexte lié à la fourniture de l'énergie permet aux consommateurs congolais de passer en revue plusieurs questions importantes qui nécessitent des solutions idoines. Il s'agit entre autres de l'accès pour tous et de manière durable à l'énergie propre, qui est un grand défi en heure de Congo. La consommation excessive de braise et ses conséquences sur l'environnement. La compréhension difficile de la facture d'énergie émise mensuellement par les fournisseurs. La flambée des prix ou des tarifs des fournisseurs. 6. Une exploitation d'autres sources d'énergie telles que l'énergie solaire, éolienne, biomasse, gaz. Toutes ces questions si haut indiquent qu'il est important que les animateurs des institutions politiques et les entreprises prestataires de services retiennent que la santé de l'économie et le développement du secteur énergétique dépendent aussi de la protection des droits et intérêts des consommateurs.
Et puis au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi est dans les noirs depuis le début de la semaine. Et pour cause, le vol des cornières sous la ligne haute tension qui transporte l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Tiela à 20 km de Mbujimayi dans les territoires de Katanda, ainsi que certains actes de vandalisme du réseau électrique. D'après le directeur général de l'entreprise Enerka Énergie du Kasaï, qui commercialise l'énergie électrique sur 97 pylônes existants, les inciviques ont déjà vandalisé 46. Victor Kabongo salue cette fois-ci l'implication de l'autorité provinciale pour le rétablissement de la situation et lui demande en même temps d'instruire les services de sécurité pour la sécurisation des pylônes de la ligne haute tension. Victor Kabongo Kavish, directeur général de NK, a été joint par Esther Ndalafina.
Les pylônes est parmi les pylônes les plus vandalisés par les inciviques qui ne veulent pas l'avancement de cette province. Quand on parle des tuyaux, nous parlons des pylônes. C'est une structure métallique avec beaucoup de cornières, donc ça pèse 2 tonnes. Et la hauteur, c'est 25 mètres. Ils viennent, ils scient toutes les cornières sur la base. Alors sur 97 pylônes, ils en ont scié 47. Il y a 2 semaines, nous sommes intervenus sur 3 pylônes. Pylônes 48, 49 et 47 pour renforcer. Mais pendant ce temps-là, ils sont allés maintenant sur 41. On a pris carrément un pylône de réserve. C'est celui-là que l'on monte, mais en 2 pièces. Alors, c'est ce qui fait que les pylônes ne font que tomber. Donc, on arrange et ils viennent, ils découpent. Nous sommes devant un problème très, très, très sérieux. Il faudrait que l'autorité nous accompagne pour la sécurisation de cette ligne. Cette fois-ci, la province nous a soutenus avec 3 engins. La même population là qui veut du développement, le développement vient avec l'énergie et c'est la même population là qui vandalise ce qui existe déjà.
Actualité internationale.
La Cour suprême du Sénégal a refusé hier vendredi de remettre en cause à la dernière minute les processus pour la présidentielle du 24 mars, jugeant irrécevable la requête de l'opposition de Karim Ouad et de ses alliés. Alors que le Parti démocratique sénégalais PDS de Karim Ouad avançait que le délai annoncé pour le scrutin était illégal car trop court, la plus haute juridiction du Sénégal a estimé le décret présidentiel appelant au scrutin à respecter la loi. En Mauritanie, 5 jours de dialogue national ont été organisés à Nouakchott entre partis politiques reconnus et en attente de reconnaissance, sociétés civiles, syndicats et commissions électorales pour préparer de manière participative les prochaines élections présidentielles de juin 2024.
L'invité
de ce journal est le vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale. Prince Yassa fait la restitution du premier forum des médias sur la santé infantile, nutrition et vaccination tenu récemment à Lomé, au Togo. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Prince Yassa, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de participer à un forum qui concerne justement le rôle et la responsabilité des médias dans la promotion de la santé, la vaccination et la nutrition des enfants en Afrique. C'était à Lomé, au Togo. Qu'est-ce que nous pouvons en savoir?
Le premier forum de médias sur la santé infantile et la vaccination et la nutrition a eu lieu au Togo, à Lomé précisément, avec le financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce forum a été organisé par les réseaux de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, au Remapsen, où je suis le premier vice-président. C'est à ce titre-là que je suis allé participer à ce forum. Je n'étais pas seul. Il y avait la coordinatrice du réseau, du Remapsen, Constance Manang, qui était avec moi. En fait, le réseau a abordé des thématiques qui n'étaient pas assez exploitées par les médias, selon l'UNICEF. Thématiques comme santé infantile, nutrition et vaccination. Au cours de ces 3 jours de travaux, il était question d'informer les journalistes de l'état des lieux, des questions sur ces 3 thématiques. Nous avons été informés et nous avons été aussi outillés, c'est-à-dire nous avons eu de nouvelles connaissances pour enfin de voir comment traiter ces questions sur le terrain. L'objectif n'était pas seulement de participer, mais d'être outillé pour que le jeune se soit utile à sa société. Parler de ces questions qui entravent le développement dans sa société.
Oui, vous dites que vous avez abordé beaucoup de thématiques, notamment la vaccination. Et en matière de vaccination, la RDC est assez avancée avec un programme spécial, le PEV. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui a été approfondi et ce que vous tirez de cela par rapport à vos thématiques?
Non, mais la RDC a une très belle expérience en matière de vaccination. Cependant, il y a un retard aussi. Nous sommes en retard lorsqu'on voit la grandeur du pays. On se dit que c'est un pays certainement qui est avancé en tout, ce qui n'est pas le cas. Si nous sommes avancés, par exemple, concernant la vaccination contre le polio et les autres maladies, nous ne le sommes pas en ce qui concerne le paludisme, où beaucoup de pays sont déjà très avancés. Bon, ici, chez nous, les choses sont encore en gestation, mais bon, on ne sait pas exactement à quel niveau nous trouvons. En plus de ces retards, il y a ces enfants qui vivent dans des zones de conflit, qui ne sont pas vaccinés. Ça constitue un grand problème. Ces enfants qui sont sans nourriture et sans vaccin, vous imaginez? Donc, ce sont des défis que les pays doivent absolument relever parce que ces enfants-là ont droit d'être vaccinés aussi.
Vous citez là un cas tout à fait probant de la guerre, notamment dans l'est de notre pays. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que ces enfants qui sont dans des zones de conflit soient vaccinés effectivement? C'est quand même difficile. Hein?
Oui, c'est difficile, mais bon, puisque la MONUSCO n'est pas encore totalement partie, moi je pense que le gouvernement pourrait travailler en collaboration avec la MONUSCO parce que la MONUSCO est présente dans ces zones-là. Donc ça lui sera un peu plus facile d'atteindre ces enfants qui ne sont pas encore vaccinés de l'être. Et ça peut se faire en collaboration avec le PEV. Le vaccinateur de PEV, je crois, avec l'appui de la MONUSCO, peuvent atteindre ces enfants là, dans ces zones où se passe encore des conflits.
La rencontre de Lomé a connu la participation des 23 pays d'Afrique et 60 professionnels des médias. Est-ce que vous avez eu des échanges avec d'autres journalistes et qu'est-ce que vous avez tiré de ces échanges, des expériences de certains pays notamment en ce qui concerne les 3 thématiques que vous avez citées?
Non, ben les échanges c'est au quotidien. Hein. Je vous ai dit que je suis vice-président du réseau, donc c'est au quotidien que je gère l'Afrique centrale parce que c'est sous ma responsabilité. Et donc les échanges c'est vraiment au quotidien. Mais par rapport aux 3 thématiques, nous sommes très avancés. Nous avons un programme. avez cité le PEV, nous avons un programme sur la nutrition pour Nanut, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pays. Et donc, les échanges étaient plus dans notre sens, c'est plus nous qui avons donné de la matière aux autres. Et alors qu'on se disait bon, on y va pour beaucoup plus pour apprendre. C'est vrai qu'on a appris, mais ça n'était pas au même niveau là. Nous étions vraiment très contents de voir que il y a un Congolais qui est au niveau du bureau régional de l'UNICEF, et docteur Claude Ngouba. Et donc c'est lui qui avait animé c'est les deuxièmes forums. Ouais, un Congolais à ce niveau là. C'était vraiment une fierté. Il nous parle de la vaccination et dire que la RDC est très avancée en matière de vaccination, contrairement aux autres pays que, dont je ne vais pas parler ici, qui sont en retard. Et donc, ça a constitué de la matière. Nous avons plus donné que
vous l'avez reçu.
Oui, voilà.
Conseiller Assa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie aussi.
Notre invité, le vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale, Prince Assa, répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko. Par ici s'achève ce radiojournal coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Polydor Basunga. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.